France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Et rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Premier tête-à-tête à Washington depuis l'investiture de Donald Trump, le président américain doit s'entretenir d'ici quelques heures avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. On se rendra en Chine après que Pékin a mis à exécution ce matin ses menaces dans le bras de fer commercial engagé par Washington à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. On parlera de la résistance au traitement qui constitue aujourd'hui le principal facteur limitant la guérison des patients. On se demandera par ailleurs comment une mesure qui a coûté des milliards d'euros aux consommateurs pour permettre une meilleure rémunération des agriculteurs n'a pas eu d'impact sur leurs revenus. Enfin, tout porte à croire que la France aura bel et bien un budget et un gouvernement demain soir après le PS. Le RN a mis fin à son tour au suspense en laissant entendre qu'il ne voterait pas la censure. Arrivé dimanche dernier aux États-Unis, c'est seulement aujourd'hui que Benjamin Netanyahu rencontrera Donald Trump à la Maison-Blanche. Comprenez, dans le bureau ovale, là où se jouera la partie décisive des discussions. Étant entendu par ailleurs que chacun des deux hommes a forcément ses propres calculs et priorités en tête. D'un côté, le premier ministre israélien, sous la pression de ses alliés d'extrême droite, ne semble pas exclure l'option, disons, paradoxale d'une reprise de la guerre pour en faire le seul moyen d'instaurer la paix. Et de l'autre, le président américain qui aborde, lui, chaque défi diplomatique comme la négociation d'un contrat d'affaires à surtout deux dossiers prioritaires, la normalisation avec l'Arabie Saoudite et la question du nucléaire iranien. Autant dire que les perspectives de discussion s'annoncent pour le moins incertaines. Seule certitude, Benjamin Netanyahu deviendra tout à l'heure le tout premier dirigeant étranger à être reçu par Donald Trump depuis son investiture, un symbole évidemment de l'alliance indéfectible entre les deux pays, ce qui ne devrait pas empêcher d'ailleurs le président américain de mettre la pression sur le premier ministre israélien. Pourquoi ? Parce que ces pourparlers, Simon Le Baron, sont aussi une question de crédibilité personnelle pour Donald Trump.
Car Donald Trump est persuadé d'être un faiseur de paix. Il l'a dit il y a deux semaines dans son discours d'investiture. C'est ainsi qu'il veut que l'on se souvienne de lui. Alors son objectif affiché, c'est que ce cessez-le-feu à Gaza tienne. Pour l'instant, a-t-il averti hier, il n'en a aucune garantie. Il attend donc que son allié israélien lui en donne aujourd'hui. Son allié, plus que jamais son allié. Le président américain a récemment annulé les sanctions financières contre les colons israéliens coupables de violences en Cisjordanie. Il a débloqué la livraison de bombes de près d'une tonne suspendues par Joe Biden. Il a dit vouloir, je le cite, « faire le ménage à Gaza en envoyant les Palestiniens en Jordanie ou en Égypte ». La question est donc de savoir quels moyens de négociation il est prêt à employer face à Benjamin Netanyahou s'il veut clore au plus vite le chapitre de cette guerre. Sans doute pas le gel ni le conditionnement de l'aide militaire à Israël, puisque Donald Trump a, selon le Wall Street Journal, demandé hier au leader du Congrès d'approuver une nouvelle enveloppe $1 milliard.
La première bataille de la guerre commerciale lancée par Donald Trump a fait long feu.
Oui, le président américain n'aura pas eu le temps de mettre à exécution les menaces qu'il avait tant promises durant sa campagne, qu'hier il a finalement suspendu pendant un mois l'imposition de droits de douane qui devait viser ses deux partenaires commerciaux, le Mexique et le Canada. Alors bien loin de présenter sa décision comme un recul, et avec toute l'arrogance qui le caractérise, le locataire de la Maison Blanche s'est enorgueilli au contraire d'avoir su utiliser ses droits de douane comme un moyen de pression pour obtenir des concessions sur d'autres dossiers, en l'occurrence le contrôle des frontières, soit l'autre promesse majeure de sa campagne. Les précisions depuis New York de Loïc Loury.
Une discussion très cordiale avec la présidente mexicaine, un bon coup de fil avec le premier ministre canadien. C'est ainsi que Donald Trump résume les échanges du jour, avec à la clé une pause dans la guerre commerciale qu'il promettait à ses deux voisins. Côté mexicain, Claudia Sheinbaum garantit le déploiement de 10 000 soldats supplémentaires à la frontière pour enrayer le trafic de drogue et les flux migratoires, objectif annoncé du coup de pression économique de Washington. De quoi laisser perplexe le Canada, les arrestations de migrants et les saisies de drogue à la frontière nord étant quantité négligeable, ce qui n'a pas empêché Justin Trudeau, pour contenter Donald Trump, d'annoncer un investissement de $140 millions. Avec ces menaces, le président américain aura surtout fait paniquer les marchés et plongé dans l'incertitude l'économie de ses partenaires et de son propre pays, en attendant la prochaine échéance de ses droits d'importation dans un mois.
Et après avoir accordé donc un répit à ses deux voisins, Donald Trump veut désormais ouvrir des négociations avec la Chine, contre laquelle il a imposé de nouvelles barrières douanières de 10%. Pékin serait d'ailleurs ouvert à des discussions, ce qui n'a pas pour autant empêché le géant asiatique de répliquer dès ce matin avec une salve de restrictions sur les exportations, mais aussi de nouvelles taxes sur les importations. Preuve que l'art du deal, selon Donald Trump, reste aléatoire et que les intimidations du républicain sont parfois, Sébastien Berriot, à double tranchant.
Oui, de nouveaux droits de douane compris entre 10 et 15%, 10% de taxes supplémentaires sur le pétrole que les États-Unis vendent à la Chine, ainsi que sur les machines agricoles et certains véhicules de sport. Et puis 15% de taxes en plus sur les importations de charbon et de gaz naturel américain. Tout cela entrera en vigueur à partir du 10 février, des mesures qui, évidemment, sonnent comme une représaille, mais qui en réalité apparaissent assez modérées. Pékin ne veut pas trop brusquer Washington et a choisi de viser des produits qui ne constituent pas le gros des exportations américaines vers la Chine. Les produits agricoles, par exemple, comme le soja, ne sont pas concernés. Mais le signal envoyé à Donald Trump est quand même clair. La Chine réagit lorsqu'elle est attaquée et c'est aussi une manière de se placer en position de force avant de possibles négociations commerciales sino-américaines annoncées par Donald Trump pour les prochaines 24 heures.
Après bientôt deux années d'une guerre dévastatrice sur fond de tensions ethniques, mais aussi de lutte pour le contrôle de ressources stratégiques, le Soudan a connu hier une nouvelle journée sanglante dans le sud et l'ouest du pays. Deux attaques, l'une menée par les rebelles indépendantistes et l'autre par les forces gouvernementales, ont fait 65 morts et 133 blessés. Et puis toujours en Afrique, la sous-région dite des Grands Lacs, gangrénée elle aussi par des rivalités ethniques, sans compter une corruption et une malgouvernance au dernier degré, va-t-elle être précipitée davantage encore dans le chaos, même si les rebelles antigouvernementaux du M23, soutenus par le Rwanda, sont encore loin de la capitale congolaise, Kinshasa. Ils poursuivent leur progression dans l'est du pays et c'est donc sur fond de crainte d'un embrasement régional que les présidents des deux partis en conflit, le Congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame, ont été appelés à participer ce week-end à un sommet extraordinaire en Tanzanie.
Midi et 37 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Il est là. La première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme. Le cancer touche chaque année 430 000 nouvelles personnes en France. Le nombre de nouveaux cas a doublé depuis 1990. En revanche, le taux de mortalité a lui diminué. Et puis une part conséquente des cancers, plus de 40%, pourrait même être évitée. Comment ? En agissant sur les facteurs de risque pour mieux se protéger. Alors à l'occasion de cette journée mondiale pour la lutte contre le cancer, nous avons choisi de nous intéresser aux mécanismes de résistance au traitement. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, invité de la rédaction, Benjamin Bess, oncologue médical et directeur de la recherche clinique au Centre de lutte contre le cancer, Gustave Roussy. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous expliquer donc ces phénomènes de résistance face aux thérapies contre le cancer? Comment se fait-il que chez certains patients, une thérapie connue s'avère inefficace ou dans certains cas qu'elle semble carrément cesser de fonctionner après une première phase de réponse favorable au traitement?
Alors, le cancer est malheureusement une maladie que je vais qualifier de polymorphe, on dit aussi polyclonale. C'est-à-dire que un cancer, c'est pas une cellule cancéreuse fois un milliard. C'est plusieurs familles de cellules cancéreuses qui constituent la tumeur. Certaines familles de cellules sont sensibles au traitement, d'autres ne le sont pas. Et donc, malheureusement, celles qui ne sont pas sensibles prennent le pas à un moment. Mais il faut quand même rappeler que quand on parle de résistance au traitement, il faut dire à quel traitement. On a en gros trois grandes familles de traitements, on va dire, par voie générale. Les chimiothérapies, depuis quasiment toujours, les thérapies ciblées que l'on ne prescrit que si un gène est anormal depuis les années 2000, et puis depuis une dizaine d'années, les immunothérapies. Les résistances à ces trois familles de médicaments sont très différentes.
On imagine effectivement qu'il doit y avoir une multiplicité de facteurs donc pour comprendre, catégoriser la résistance aux thérapies chez certains patients. Il faut faire la différence, je crois, entre deux notions, la résistance dite primaire et puis la résistance secondaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette distinction?
Bien sûr, ça nous vient en fait de l'expérience historique de la chimiothérapie. Par exemple, si je prends l'exemple du cancer de l'ovaire, un médicament qui fait partie de l'arsenal qui s'appelle le sel de platine, eh bien, si la maladie résiste dans les 6 mois sous traitement ou après l'arrêt du traitement, on sait que réintroduire ce médicament sera probablement sous-optimal, alors que, et on appelle ça une résistance primaire. Alors que s'il y a l'apparition d'une récidive après 6 mois de l'arrêt de traitement, on va parler de résistance secondaire et réintroduire le même médicament a de grandes chances de succès. Alors, ces définitions, elles sont spécifiques au type de médicament et au type de cancer. Si je prends la même famille, dans le cancer à petites cellules, un cancer du poumon, on aura des délais qui seront plutôt de 3 mois et pas de 6 mois. Pour les immunothérapies, notre dernière grosse révolution thérapeutique, on parle aussi de 6 mois entre les résistances primaires et secondaires. Et on essaye de comprendre les mécanismes de résistance qui sont probablement différents entre une tumeur d'emblée réfractaire à un traitement et une tumeur sensible, puis qui devient résistante.
Est-ce qu'on peut étudier justement cette résistance comme un phénomène à part entière, c'est-à-dire indépendamment des types de tumeurs ou des types de traitements pour lesquels les mécanismes de résistance apparaissent?
Alors malheureusement, on n'a pas un mécanisme pan-cancer, pan-traitement de résistance. J'espère qu'on en trouvera parce que ça veut dire qu'on aurait des voies thérapeutiques qui seraient actionnables sur tous les types de cancers et tous les types de traitements. Aujourd'hui, quand vous avez une immunothérapie qui stimule le système immunitaire, la résistance, c'est l'échappement au système. C'est-à-dire que la tumeur redevient invisible au système immunitaire qui n'arrive plus à l'identifier comme un ennemi. Quand vous avez une thérapie ciblée qui vient inhiber spécifiquement une voie, une protéine dans le cancer, être résistant, c'est que ce médicament soit n'arrive plus à pénétrer dans la cellule, soit n'arrive plus à inhiber sa protéine, par exemple parce qu'elle aurait changé de conformation avec une nouvelle mutation. Donc vous voyez, le mécanisme d'action des traitements est quand même essentiel pour comprendre le mécanisme de résistance. À Gustave Roussy, on a construit depuis plus de 10 ans des programmes de recherche, d'abord MatchShare, maintenant Sting Unlock. Ce sont des programmes qui sont financés par la philanthropie pour comprendre les mécanismes de résistance des traitements.
C'est bien noté. Merci Benjamin Bess, oncologue médical donc et directeur de la recherche clinique au Centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
La Ligue contre le cancer mais aussi l'ONG Foodwatch et l'application de nutrition Yuka ont lancé ce matin une pétition conjointe. Objectif, faire pression pour obtenir l'interdiction de l'aspartame.
Oui, cet édulcorant, bien que possiblement dangereux pour la santé, est autorisé depuis 1988 en France. Il est présent dans plus de 6000 produits et notamment ceux dits allégés. Or, en 2023, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'a classé comme peut-être cancérogène pour l'homme, ce que ne pointent pas nécessairement en revanche les études, sauf que près des 3/4 d'entre elles considérées comme fiables sont en réalité financées ou influencées par l'industrie agroalimentaire, ce qui toujours selon ce communiqué commun remettrait donc en cause la crédibilité de l'évaluation des risques. Près d'un an après son dépôt par le gouvernement Attal avant d'être finalement suspendu par la dissolution, puis reporté par la censure, le projet de loi d'orientation agricole arrive enfin aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat. Un texte forcément attendu avec une impatience non dissimulée par toute une profession en crise et en colère. Parmi les principaux enjeux, on citera évidemment l'attractivité du métier. Comment convaincre aujourd'hui les jeunes générations de s'y engager compte tenu des conditions de travail extrêmement difficile et du faible niveau de rémunération. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour Thomas.
S'agissant justement de revenus, depuis 2018, plusieurs lois dites Egalim ont été adoptées pour améliorer cette rémunération. Or, selon une étude de l'association UFC Que Choisir publiée ce matin, on apprend que ce dispositif a non seulement coûté des milliards d'euros aux consommateurs, mais sans impact sur le revenu agricole. Comment en est-on arrivé à cette aberration?
Eh bien, l'une des dispositions de ces lois Egalim impose aux distributeurs de vendre certains produits alimentaires au moins 10% plus cher que le prix auquel ils les ont achetés. En relevant ainsi ce qu'on appelle le seuil de revente à perte, l'idée, c'était que cette marge minimale garantie entraîne une hausse des prix payés aux industriels et que ces derniers reversent ensuite les sommes aux agriculteurs. Or, ce que montre montre cette étude, c'est que les milliards payés en plus par les consommateurs n'ont pas ruisselé jusqu'aux producteurs. L'inflation pour les consommateurs a représenté entre 470 millions et 1 milliard d'euros par an, selon les estimations. Or, en 2019, année de la mise en place de la mesure, le revenu agricole a lui baissé pour les filières céréales, porc et bœuf, et stagné pour le lait, souligne l'UFC Que Choisir. Les années suivantes, les revenus n'ont augmenté qu'en raison des évolutions des prix mondiaux et sans pour autant que cela ne permette aux agriculteurs de compenser la hausse de leurs coûts de production. Cette publication intervient alors qu'industriels et distributeurs ont jusqu'à fin mars pour se mettre d'accord sur les prix et leurs marges respectives, et c'est d'ailleurs plus globalement le déséquilibre persistant dans ces négociations commerciales que dénonce ici l'association. Elle demande davantage de transparence sur les conditions de négociation, à vrai dire il n'y en a actuellement pour ainsi dire aucune, et aussi l'abandon de cette marge minimale garantie, par ailleurs critiquée par plusieurs études d'impact parlementaires. Le dispositif doit s'arrêter en avril, mais la ministre de l'Agriculture a déjà dit son souhait de le voir perdurer. Une proposition de loi portée par le député Julien Dive prévoit de le prolonger jusqu'en 2028. Elle pourrait être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale mi-mars.
Merci Catherine Pétillon. Le ministère de l'Intérieur publiait ce matin les chiffres sur l'immigration quand on apprend que l'État a délivré l'an dernier peu ou prou le même nombre de titres de séjour qu'en 2023. En revanche, les demandes d'asile ont diminué de 5%. Les régularisations de sans-papiers ont baissé de 10%. Quant aux expulsions d'étrangers, elles ont augmenté de près de 27%.
Le Rassemblement national ne devrait pas voter la censure sur le budget.
Le parti d'extrême droite ne prendra sa décision définitive que demain. Mais déjà ce matin, Jordan Bardella a affirmé qu'il ne souhaitait pas, je cite, « aggraver l'instabilité ». Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Thomas.
On s'oriente donc, Antoine, vers un non-vote de la censure par les députés RN.
Le RN a été hésitant. Depuis quelques jours, on a entendu ses porte-parole peser le pour et le contre, et cette fois-ci, cette hésitation ne semblait pas tactique, mais plutôt embarrassée. Car le RN n'est plus le faiseur du roi. Avec la décision du PS de ne pas voter la censure, le choix des députés du groupe RN ne pèse plus dans le résultat final. Quoi qu'il arrive, le gouvernement Bayrou ne sera pas renversé sur cette motion. Restaient alors deux pistes symboliques, voter la censure avec LFI, au risque d'apparaître comme facteur d'instabilité, ne pas voter la censure, au risque de céder à LFI le mot de l'opposition. Et c'est finalement vers ce deuxième choix que le RN s'oriente, si l'on en croit les propos de son président. Il explique que cette censure pourrait avoir des conséquences plus lourdes pour l'économie que lors de la précédente censure du gouvernement Barnier en décembre. Propos confirmés dans la matinée à notre micro par le porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli.
Soit on laisse un très mauvais budget s'appliquer en France, et ça veut dire d'une manière ou d'une autre moins de pouvoir d'achat pour les Français, taxe sur l'avion, taxe sur le soda, une contrainte supplémentaire sur les entreprises, et ça c'est pas bon pour l'économie. Soit on vote une censure qui elle aussi aura des effets sur une forme d'instabilité de la 5e République qui peut détendre le lien entre les Français et l'Assemblée nationale sur les déclarations d'impôts, et donc on est responsable.
On est responsable, sous-entendu, on ne votera pas la motion, pas cette fois-ci en tout cas, car le RN agite toujours la menace d'une censure, mais sur un autre sujet.
Merci Antoine Maret. Allons parler un instant du budget. Et parmi les décisions qui ont été validées en commission mixte paritaire, on trouve par exemple l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, s'agissant aussi bien des vols commerciaux que des jets privés. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Comme attendu, les associations environnementales se félicitent de cette décision. Il faut dire que l'aviation représente 2% du total des émissions de dioxyde de carbone dans le monde. En revanche, et sans surprise, là encore, les professionnels du secteur font la grimace, ils évoquent déjà une perte d'attractivité, de compétitivité et font même valoir, Hakim, des menaces sur l'emploi.
Oui, c'est la taxe augmente en passant de 2,6 à 7,4 euros par passager pour un billet en classe économique sur un vol intra-européen. Malgré tout, demain, la hausse reste inférieure à celle prévue par Michel Barnier lorsqu'il était Premier ministre. Qui souhaitait la faire passer à 9,5 euros par passager en classe économique. En revanche, sur les vols long courrier, ce montant reste inchangé entre 15 et 40 euros selon la longueur du trajet. Avec toutefois une exemption à 2,6 euros par passager pour les vols à destination de l'Outre-mer et de la Corse. Mais sur ce point précis, il faudra malgré tout encore avoir l'accord de la Commission européenne qui n'y est pas favorable. En attendant, cette augmentation ne passe pas du tout auprès des dirigeants d'aéroports et des compagnies aériennes qui estiment qu'elle aura des conséquences sur le développement économique et même avec peut-être même des milliers de suppressions de postes à la clé, un discours alarmiste que ne partage pas du tout Alexis Chaillot, responsable transport auprès de l'ONG Réseau Action Climat, qui rappelle que le secteur aérien a déjà bénéficié de nombreuses niches fiscales.
On connaît souvent l'absence de taxes sur le kérosène, mais les compagnies aériennes sont aussi exonérées de TVA sur les vols internationaux. Et donc, ce projet de majoration de la taxe sur les billets d'avion, elle permet alors pas de compenser ces exonérations, mais d'aller dans le sens d'une meilleure fiscalité. Donc, le signal est positif.
Avec la taxe de solidarité sur les billets d'avion, le gouvernement espère récolter entre 800 et 850 millions d'euros par an, loin du 1 milliard qu'il tablait initialement.
Merci Hakim Kasmi. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Couvert sur le nord-ouest, humide sur le Finistère. Partout ailleurs, les éclaircies devraient l'emporter. Quant aux températures, elles seront comprises entre 4 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.